Vous êtes sur RTL.
Heureux de vous retrouver donc pour ces deux heures d'infos. Elle a une, nos soldats morts en héros, deux cercueils recouverts de drapeaux tricolores liés par une sangle de vie, comme celle reliant les nageurs de combat pendant une opération. Deux cercueils portés par leurs frères d'armes au visage masqué. Il s'appelait, vous le savez, Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncello. Ils sont morts pour libérer nos otages au Burkina Faso. Et ce matin, la nation tout entière leur rendait hommage dans la cour des Invalides. Une cérémonie pendant laquelle Emmanuel Macron a salué des soldats hors normes et rappelé après les polémiques que la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants. Cet après-midi, l'Assemblée nationale et le Sénat ont salué également la mémoire des deux militaires. Dans RTL Soir, on va vous raconter cette journée placée sous le signe de l'émotion. À 18h30, Alain Duhamel reviendra sur ce symbole d'unité nationale. Le débat à partir de 19h15 dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition. Avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Des billets de 500 euros par liasse. On parle gros sous cet après-midi au procès Balkany. Les incroyables dépenses du couple sont au cœur des débats. Et Patrick Balkany répond, nous serons au tribunal de Paris dans un instant. Des éléphants pour soutenir Raphaël Glucksmann. La liste emmenée par le fondateur de Place Publique plafonne à 5% d'intention de vote pour les européennes. Alors les cadors du PS se mobilisent. À suivre également les très lourds soupçons qui pèsent sur l'anesthésiste de Besançon. On en est à une soixantaine d'incidents médicaux suspects, dont une vingtaine de morts. Les États-Unis prêts à envoyer 120 000 hommes au Proche-Orient face à l'Iran. Et puis, les LED, c'est beau, mais c'est dangereux. Vos yeux et votre sommeil sont en péril. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en forte hausse d'1,50% à 5 341 points. Les courses à Vichy, il fallait jouer le 14, le 5, le 16, le 9 et le 2.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, le tarif réglementé de l'électricité va flamber de 85 euros par an et par ménage cet été, une hausse compensée en partie par le chèque énergie. Mais ce chèque, qui y a droit ? 18h20, les candidats sont dans le pré. Premier invité d'RTL Soir, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui vient d'interroger les candidats aux élections européennes sur leur programme agricole. Dans la foulée, direction les coulisses de l'actualité, dans l'antre des frères Klein à Raqqa, des reporters ont retrouvé le confortable appartement d'un des deux cadres français de Daesh, tué il y a 3 mois. On vous y amène en coulisses et ça fait froid dans le dos. 18h35, la boule au ventre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se bat contre un cancer du rein. C'est l'histoire d'une famille unie face à l'injustice et l'indicible. Eric Témine, le papa de Liam, raconte les soins, les angoisses, mais surtout l'espoir dans un livre et tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Même tendance pour demain avec du soleil et un petit vent frais.
Météo très ensoleillé, mais toujours dans une ambiance rafraîchie par un petit vent d'est, la bise qui souffle sur les régions de l'est, avec en plus quelques passages nuageux dans l'après-midi près des frontières de l'est. Encore de l'instabilité, un risque d'averse sur le sud des Alpes et sur la Corse. Partout ailleurs, du soleil et des températures comprises entre 2 et 12 degrés demain matin, 2 à Mulhouse, 6 à Grenoble, 9 à Paris, et de 14 à 23 dans l'après-midi, 14 à Langres, 17 à Cherbourg, 18 à Paris, jusqu'à 23 à Toulouse.
Et à tout à l'heure, Patricia.
RTL Soir.
Une minute de silence à l'Assemblée, une autre au Sénat. L'hommage national aux deux militaires tués au Burkina s'est poursuivi cet après-midi.
Tout a commencé par un hommage citoyen ce matin. Des milliers de personnes ont pu applaudir les cercueils sur le pont Alexandre III lorsque le cortège a traversé la Seine en direction des Invalides. C'est là, dans la cour d'honneur, qu'avait lieu la cérémonie officielle présidée par Emmanuel Macron en présence des familles de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Émilie Beaujard, vous avez assisté à cet hommage pour RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec un temps fort, l'arrivée des cercueils.
Oui, recouverts du drapeau tricolore et portés par leurs frères d'armes, des militaires des forces spéciales ont trié et le visage masqué par un cache-col. L'image est saisissante, le moment suspendu au rythme de l'ensemble breton de la Marine nationale. Les cercueils sont ensuite installés au centre de la cour d'honneur. Puis Emmanuel Macron est revenu sur la carrière exceptionnelle des deux soldats. Exemplarité, courage, générosité, voilà les adjectifs utilisés par le président pour leur rendre hommage. Ils étaient des soldats hors normes et ils sont morts en héros.
Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne, en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat.
Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur et promus au rang de premier maître à titre posthume. Un moment de grande émotion pour les familles des deux défunts qui ont ensuite suivi des yeux les cercueils repartir portés par leurs frères d'armes au rythme du chant des commandos marines loin de chez nous.
Récit d'Émilie Beaujard pour RTL.
45 minutes d'une cérémonie d'une rare intensité, donc. Les militaires étaient venus en nombre du jamais vu, selon un officier. Parmi eux, le capitaine de vaisseau Pierre de Brancion. Il est l'ancien patron du commando Hubert.
Oui, il faut penser à eux, il faut leur rendre hommage pour leur montrer notre respect. On est tous marqués. Et ce genre de cérémonie est très utile aussi pour que chacun fasse son deuil individuellement et de façon collective. Toute l'unité se retrouve, tous les anciens. On est une petite famille et on a vraiment besoin de ça. Hubert, c'est très particulier. Des experts dans leur domaine et qui se connaissent très bien depuis des années, qui partagent le quotidien, le travail, les risques, les joies, les peines. Quand on perd de camarades, c'est très rude, comme toute famille. Donc beaucoup d'émotions, mais il ne faut pas s'y tromper, la détermination est toujours là. L'unité a été touchée, elle se relèvera plus forte. Les missions seront remplies, les opérateurs repartiront sur le terrain quand il faudra. Donc de toute façon, on se soutient tous mutuellement. C'est le côté un peu curieux de ce genre de cérémonie, parce que c'est à la fois très triste, très émouvant, mais c'est aussi une espèce de joie de se retrouver ensemble, de resserrer ses liens et de repartir plus fort.
L'ancien donc patron du commando Hubert au micro RTL de Pierre Julien.
Et les obsèques de Cédric de Pierrepont auront lieu demain à l'Armor-Plage dans le Morbihan. Celles d'Alain Bertoncello seront célébrées samedi en Haute-Savoie.
Au deuxième jour du procès Balkany, on entre dans le vif du sujet, la fraude fiscale.
Patrick et Isabelle Balkany sont jugés pour avoir dissimulé au moins 13 millions d'euros au fisc. Isabelle Balkany n'assiste toujours pas à l'audience. Elle est hospitalisée après une tentative de suicide. Comme hier, la défense a bien essayé d'obtenir un report du procès, mais en vain. Les débats ont donc pu commencer pour de bon. Alice Moreno, vous êtes au Palais de justice de Paris pour RTL. Quand on aborde le train de vie fastueux du couple, eh bien, Patrick Balkany riposte.
Oui, et il entame par la lecture des lettres rédigées par son épouse, écrites pendant l'enquête. À la barre, sûr de lui, en costume bleu orné de sa cocarde, Patrick Balkany prête donc sa voix forte à la plume de sa femme. Dans ses courriers, Isabelle Balkany dénonce la violation du secret de l'instruction. Cela a de lourdes conséquences, écrit-elle, sur le plan personnel, psychologique et me concernant médical. Agitant ses mains, jetant des regards appuyés aux avocats de la partie civile, Patrick Balkany semble extrêmement à l'aise. L'homme politique qu'il est déterminé à convaincre son auditoire. Il poursuit la lecture des courriers. Je déplore la violation de notre vie privée. Mon manquement fiscal ne méritait pas que je sois humilié, jeté à l'opprobre. Des informations farfelues ont été divulguées dans la presse, notamment sur notre train de vie prétendument au-dessus de nos moyens. Mais le président à l'audience reprend, lui, les témoignages des employés de maison des Balkany. Il y avait des billets de 500 euros cachés un peu partout dans le moulin de Giverny, assure l'une d'elles, dans le peignoir de monsieur ou la coiffeuse de madame, ces gens achetaient les gens avec leur argent.
Au Palais de justice de Paris, donc pour RTL, Alice Moreno.
Le nombre de détenus en France bat un nouveau record. On compte désormais 71 828 détenus pour une capacité d'environ 61 000 places. La densité carcérale atteint ou dépasse les 200% dans cet établissement.
Il ne voulait pas être la bouée de secours du PS. C'est finalement le PS qui vole au secours de Raphaël Glucksmann.
Ouais, c'est que la liste socialiste menée par le fondateur du mouvement Place Publique est à la peine. Dans tous les sondages, elle flirte avec les 5% d'intention de vote. Autrement dit, pas sûr qu'il y ait ne serait-ce qu'un eurodéputé élu. Plusieurs élus locaux ont publié une tribune de soutien cette semaine et de plus en plus, eh bien, les éléphants sont sortis, Marie Mollet.
Oui, les ténors de la gauche vont mouiller la chemise et monter sur les estrades aux côtés de Raphaël Glucksmann. Des têtes d'affiche et pas des moindres. Christiane Taubira, égérie de la gauche, dès demain à Rouen, alors qu'elle a quitté la scène politique. Najat Vallaud-Belkacem, Anne Hidalgo à Paris, et puis des socialistes pur sucre. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve à Lyon, Martine Aubry à Lille, enfin, pour clore le sprint final. Le patron du PS, Olivier Faure, a donc sifflé le rappel des troupes, des vétérans. Mais ils sont défendus au micro de Vincent de Rosier. Ce n'est pas un défilé des apparatchiks.
Christiane Taubira n'a jamais été un éléphant, il n'est même pas socialiste. Najat Vallaud-Belkacem, un éléphant, peut-être une éléphante, plutôt assez jeune. Enfin, c'était pas un mammouth en tout cas. Et quant à Bernard Cazeneuve, il n'a jamais participé en fait au jeu des courants, des écuries, etc. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi on les qualifie d'éléphants. En réalité, vous voulez à nouveau remplir la ménagerie.
Pas une ménagerie, en tout cas on est un peu loin des promesses de Raphaël Glucksmann, s'affranchir de l'appareil socialiste, des politiques professionnelles, mais l'heure est grave et toutes les volontés sont les bienvenues.
Marie Mollet du service politique de RTL.
RTL soir 18h09.
Une pause et dans un instant des soupçons de plus en plus lourds sur l'anesthésiste de Besançon.
RTL soir.
Citroën.fr.
RTL Soir 18h11, Marc-Olivier Fogiel est pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et il était déjà poursuivi pour 7 empoisonnements. L'anesthésiste de Besançon est désormais soupçonné d'une 60aine d'incidents médicaux.
Frédéric Péchier est mis en examen pour avoir provoqué 7 arrêts cardiaques sur ses patients. 5 ont pu être réanimés, 2 sont décédés. Une information judiciaire est ouverte depuis 2 ans et cette enquête a mis au jour d'autres cas suspects, beaucoup de morts. Le médecin réputé est en garde à vue depuis ce matin, Thomas Proutot.
Absolument, et la police judiciaire l'interroge plus particulièrement depuis ce matin sur une 30aine de patients, dont une 20aine de personnes décédées entre 2008 et 2017. Vous le disiez, des cas qui n'étaient pas détectés ou pas suffisamment étayés lors de la première garde à vue il y a 2 ans. Alors il est trop tôt à ce stade bien sûr pour attribuer ces décès à l'anesthésiste, mais pour chacun des cas retenus, il y a eu un incident, c'est-à-dire un événement inattendu au regard de l'état de santé du patient. C'est ce que dit la nomenclature médicale. Le docteur Péchier était un anesthésiste réputé jusqu'en 2017, jusqu'à sa suspension. Les enquêteurs le soupçonnent en fait, et c'est assez effrayant, d'avoir fabriqué en partie cette réputation et d'avoir volontairement modifié les poches de produits injectés par ses confrères pour ensuite intervenir comme réanimateur miracle. Des doses létales de potassium ont d'ailleurs été retrouvées chez des patients et à plusieurs reprises, l'anesthésiste avait posé le bon diagnostic. On saura demain matin si sa garde à vue est prolongée.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Direction maintenant les États-Unis, car face à l'Iran, Washington montre ses muscles.
Oui, c'est ce que révèle ce matin le New York Times. Le ministre de la Défense vient de présenter à la Maison-Blanche un plan qui pourrait être appliqué en cas d'attaque iranienne contre des intérêts américains ou si Téhéran poursuit son programme nucléaire. Ce plan prévoit l'envoi de 120 000 hommes au Moyen-Orient. C'est du jamais vu depuis la guerre en Irak, Philippe Corbet.
Oui, le président vient de dénoncer une fake news, mais le New York Times précise qu'il n'était pas forcément informé du détail de ce plan. Il a été demandé en fait par son conseiller John Bolton, un faucon qui était dans l'équipe Bush pendant la guerre en Irak, qui avait d'ailleurs essayé de le convaincre d'aller à la confrontation avec l'Iran. On ne peut pas exclure que certains des participants à cette réunion jeudi dernier fassent fuiter ce plan pour mettre la pression sur Téhéran. Donald Trump s'est fait élire, comme Barack Obama d'ailleurs, en promettant une diminution des troupes au Moyen-Orient. Il affirme avoir été opposé dès 2003 à l'invasion de l'Irak, mais son conseiller Bolton et son secrétaire d'État Pompeo sont plus va-t-en-guerre. Ces derniers jours, les Américains ont déjà renforcé leur présence dans le Golfe avec un groupe aéronaval autour d'un porte-avions, des bombardiers B-52 sur la foi de renseignements collectés notamment par Israël. Pompeo en a parlé hier à Bruxelles avec les Européens qui craignent qu'une étincelle n'embrase la région. Si l'Amérique montre les muscles, que va-t-il se passer en cas de provocation iranienne? Est-ce que Trump, même hésitant, resterait les bras ballants? Comme le dit un ancien de l'équipe Obama, il est de plus en plus évident qu'on marche vers la guerre, que Trump le réalise ou non.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL.
En Grande-Bretagne, le gouvernement se prépare à une possible faillite de British Steel, le deuxième groupe sidérurgique du pays. 5000 emplois sont menacés. C'est ce groupe qui a repris Ascoval en France.
Elles ont envahi notre quotidien, mais attention, les LED ne sont pas inoffensives.
Oui, aujourd'hui, ces diodes électroluminescentes ne servent plus seulement de lampes. On les trouve dans tous nos écrans, dans certains jouets et dans les objets de décoration. Le problème, c'est qu'elles sont riches en lumière bleue. L'Agence de sécurité sanitaire lance donc une nouvelle mise en garde, Mélina Fachin.
Oui, d'abord, la lumière bleue des LED est toxique pour la rétine. À trop forte dose, elle l'abîme, ce qui peut entraîner des troubles de la vision. Ensuite, si on regarde nos écrans le soir ou la nuit, même très peu de temps, ça trouble le sommeil, surtout celui des enfants et adolescents dont le cristallin est plus transparent. L'ANSES recommande donc de limiter l'usage des tablettes et smartphones en fin de journée. Et Gérard Lasfargue, le directeur général de l'agence, veut aussi que les consommateurs soient mieux informés, qu'il y ait plus de normes, comme c'est par exemple déjà le cas avec les lampes à LED.
Si vous achetez une lampe aujourd'hui, vous savez dans quel groupe de risque elle est. En général, c'est 0 ou 1. Par contre, si vous achetez un autre objet, par exemple une lampe torche jouet pour votre enfant, un smartphone, une tablette, il n'y a aucune indication et donc vous ne savez pas dans quel groupe à risque vous êtes éventuellement.
Autre réclamation de l'ANSES, plus de transparence quant à l'efficacité de certaines solutions qui existent déjà. Par exemple, chez votre opticien, les verres anti-lumière bleue. Eh bien aujourd'hui, rien ne vous garantit qu'ils vous protègent vraiment.
Mélina Fachin pour RTL.
On termine avec le Festival de Cannes, cérémonie d'ouverture dans un peu plus d'une heure à 19h30. Le tapis rouge a été déroulé ce matin sur les marches du Palais. Il sera foulé tout à l'heure par Bill Murray et Iggy Pop à l'affiche du film d'ouverture. Et pour déclarer le festival ouvert, un duo glamour, Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem.
Javier Bardem, mais oui, j'imagine bien. On sera à Cannes, évidemment, dans le journal de 19h. À tout à l'heure, vous revenez avant ça à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité.